回家回家回。No hay vida más arrastrada que la del pobre correro, con la picana en la mano, picando al buey delantero. La, 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 la.
Mesdames, Messieurs, eh bien, merci de nous rejoindre dans l'émission Au cœur du tango, première émission radiophonique régulière en France sur la culture du tango, et c'est évidemment sur Aligre FM. Une émission co-animée par Sylvain Berthaud.
Et par Nathalie Perrin.
Voilà, et puis ce soir, on remercie tout de suite la technique en la personne de Renaud Poussin, voilà, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour faire une magnifique émission. Alors on commence, nous on a toujours envie de sautiller dans le studio par rapport à notre génie, n'est-ce pas, qui est tiré d'un concert streaming de décembre 2020 donné par le groupe électro-tango Otros Aires, avec les premières notes de leur titre La Pampa Seca. Vous connaissez bien sûr, hein.
Et oui, chère Nathalie, nous aimons particulièrement le groupe Otros Aires, et outre notre générique, nous l'avons d'ailleurs fait écouter à plusieurs reprises.
Oui, c'est vrai, on les adore, et c'est pour ça que le 29 novembre dernier, on en avait déjà parlé, mais on a fait le voyage jusqu'à Caen pour les écouter en concert.
Et pas seulement les écouter, hein. On a dansé tous leurs morceaux.
Oui, super souvenir. Et heureusement, Miguel Di Genova, le chanteur, avait son bandoneoniste, un excellent traducteur. Il nous a bien aidé pour présenter, et il a aidé aussi tous les gens qui étaient là ce soir-là, pour présenter en français les nouvelles chansons de Otros Aires.
Tout à fait. Et ce bandoneoniste, c'est un superbe interprète, un bandoneon expressif, varié, subtil, puissant également, parfois percussif, parfois lyrique. On l'avait déjà croisé en plein d'autres occasions.
Voilà, alors tout ça pour dire ça vient, que nous sommes allés discuter ensuite avec lui, que la conversation s'est poursuivie et que nous avons découvert un passionné de son instrument, un musicien de talent dans de nombreuses formations de tango comme de jazz, un arrangeur, un compositeur de musique contemporaine, un directeur artistique.
Et nous sommes particulièrement fiers donc de recevoir Simone Tolomeo dans Au cœur du tango.
Bonjour Simone.
Bonjour Simone.
Merci Nathalie, merci Sylvain pour l'invitation.
Alors précisons que vous êtes d'origine italienne et précisément sicilienne. Est-ce que c'est là qu'est d'abord né votre rapport à la musique et que vous avez fait votre formation? C'est en Italie, en Sicile?
C'est exact, et c'était un peu par tout hasard. Parce que mon père aimait bien que ses enfants fassent de la musique.
Wow.
Et vu qu'en plus, il aimait bien chanter à l'église.
Ah.
Quand il a vu que j'étais à peu près un petit peu doué au piano, il m'a mis à l'orgue à 7-8 ans. Du coup, j'accompagnais les fonctions à l'église.
D'accord.
Voilà.
Magnifique. Donc, des débuts en fait de piano.
Voilà, c'est ça. Tout de suite, je suis allé au conservatoire. Et c'est là que j'ai commencé un peu ce parcours qui n'est pas forcément linéaire. Vous savez, quand on fait des études de musique, je vois aussi ici en France, on rentre dans un circuit qui est quand même un peu structuré et on a envie de faire le mieux possible, alors que moi, je l'ai toujours vécu un peu comme une formation complémentaire dans ma vie. Et c'est aussi un peu la façon pour me retrouver avec des copains, faire de la musique, faire du rock, du jazz, du blues, en dehors de la musique classique. Et aussi me faire quelques dessous en jouant dans les églises pour les mariages, choses comme ça. Voilà.
Ce conservatoire dont vous parliez à l'instant en Italie, c'est le conservatoire de Palerme, c'est ça?
C'est exact.
Palermo, oui. Comme on dit en Italie. Voilà. Et vous êtes allé en France ensuite? Comment s'est passé, puisque nous on vous connaît parce qu'on vous a entendu en France, mais quel est le rapport à la France après l'Italie?
En fait, j'avais 18 ans, j'avais terminé mes études et j'ai eu la chance de gagner une bourse pour faire des études à Lyon. Mais rien à voir, j'ai fait une école d'ingé.
Oui, bon, ingénieur.
Ingénieur, du coup. Mais j'ai toujours continué à faire de la musique. Du coup, même si j'étais en train de faire mes études à Villeurbanne, exactement.
Oui.
Et j'avais toujours fait de la musique à côté. Du coup, c'est un peu les moments où j'ai découvert aussi la musique française, les jazz français, voilà.
D'accord, mais vous parlez comme ça de styles finalement très très variés, parce que effectivement, quand on parle de conservatoire, on a un peu l'impression que les musiciens sont mis sur des rails. Et là, on a l'impression de direction très, très foisonnante. J'avais envie de parler peut-être de musique traditionnelle italienne, savoir si déjà des musiques de danse typiques de l'Italie étaient en jeu. Et non, on parle tout de suite finalement d'une musique très actuelle, du rock, du jazz, de l'improvisation, d'une musique très vivante.
En fait, ce que je pense, c'est que la musique, c'est tellement vaste, et bien sûr, hein, je me suis approché aux musiques traditionnelles siciliennes, de la Méditerranée, mais on ne peut pas nier ce qu'on est. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi pendant les années 90, et j'avais plein de musiques actuelles que j'écoutais, du coup, j'en faisais partie. Hein.
Oui.
Et même si ma formation est classique, moi, j'adore la musique classique. Mais je ne peux pas nier, j'adore aussi les jazz, j'adore aussi les rock.
Oui, on en parlera. Vous avez un panel et une capacité à embrasser des styles tellement différents. C'est vrai que j'ai été interpellé par votre formation d'ingénierie à Lyon, en me disant, tiens, dans le fameux groupe Otros Aires, dont on parle souvent, Miguel Di Genova, une formation d'architecte également. Est-ce qu'il y a un rapport finalement entre l'urbanisme, l'architecture et la musique?
Et la composition musicale, puisque vous composez.
Alors, je ne sais pas par rapport à Miguel, mais c'est vrai qu'on en a parlé. Mais par rapport à moi, c'est à nouveau, je crois que c'est les hasards. En fait, tout d'abord, j'étais juste passionné de physique.
Oui.
Et le fait de pouvoir partir de Sicile, faire une expérience à l'étranger, ça m'a mis dans ses rails de faire une école d'ingé où j'ai fait des expériences magnifiques. J'ai rencontré plein de gens de partout dans le monde, j'ai appris pas mal de langues. Et voilà, ça m'a servi. Mais après, à posteriori, je pense que j'aurais mieux fait faire des études de physique, vraiment, c'est ce qui me passionnait à l'époque. Du coup, finalement, même les choix de l'urbanisme, ingénieur civil, c'était plutôt pour rester dans... Et j'étais passionné par l'hydraulique.
Voilà. Oui.
Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la musique? Il y a, si vous voulez, il y a quelque chose qui pour moi est très profond entre l'art et la science. Mais si vous voulez, on en parle tout à l'heure.
Oui, avec plaisir. Parce que voilà, on s'approche pour illustrer cette première partie consacrée à votre formation musicale. Il nous a semblé naturel, en tout cas Sylvain Berthaud, de faire entendre un tango que vous avez composé en 2017. Il s'agit de Flor del Sena, Fleur de la Seine, c'est ça?
C'est exact.
C'est un enregistrement donc de 2018 avec vos arrangements et vous-même au bandoneon. Et c'est avec l'ensemble Los Milonguitas, Alessio Menegoli Grandi, la contrebasse, contrabajo, y Pablo Murgier, piano, y accordéon, piano et accordéon.
Mm-hmm.
Oui, alors, parce qu'il avait fait l'introduction à l'accordéon. Voilà.
Parfait. Et donc, il y a la possibilité de regarder la très jolie vidéo. On ne dira pas sur quelle plateforme, parce qu'on n'aime pas trop les plateformes américaines.
Oui.
Mais il y a un très joli clip avec les danseurs et artistes visuels de Los Guardiola. On en reparlera, Los Guardiola. Ils sont au Théâtre des Gémeaux jusqu'au 25 avril. Donc, précipitez-vous, tendresse, poésie, danse et très belle musique. Écoute maintenant Los Milonguitas avec le bandoneon de Simone Tolomeo. Thank you.
De retour au cœur du tango sur Aligre FM, voilà, avec notre invité Simone Tolomeo, et nous venons d'écouter Los Milonguitas, Flor del Sena 2018, un morceau qui a été composé par Simone Tolomeo. Voilà,
alors,
très très beau morceau. Hein.
Magnifique morceau, mais Simone, on vient de parler de votre formation de pianiste et de composition, votre formation musicale, et dans cette première composition qu'on écoute, Flor del Sena, vous êtes le bandonéoniste de la formation. Alors il y a quand même quelque chose qui intervient dans l'histoire, là, qu'on n'a pas encore vu. C'est l'apparition du bandoneon. Alors comment il apparaît dans votre carrière musicale?
À nouveau, par tout hasard, j'étais en Argentine pour faire un échange académique avec mes études. Voilà, ces fameux Erasmus.
Oui.
Mais c'était pas un Erasmus parce que
oui.
J'étais en Amérique latine. Mais bon.
Oui.
Et j'étais là-bas, j'avais l'envie d'acheter un piano parce que c'était quand même mon instrument. Et du coup, je me suis retrouvé un peu à me balader dans la province de Buenos Aires. J'étais exactement à La Plata. Du coup, j'étais allé dans des petits villages à côté parce que j'ai eu des annonces des pianos. Et les pianos, ils étaient tous improponibles. Il manquait des touches. Il y avait des poules sur les pianos. Voilà. Et du coup, un jour, pendant cette recherche, la personne qui voulait me vendre les pianos, elle m'a dit « Mais écoutez, en fait, j'ai aussi un instrument de mon grand-père, un bandoneon. Est-ce que ça vous intéresse ?» Moi, je disais « Quoi ? Un quoi ?» J'avais aucune idée. Après, je l'ai vu. J'ai dit « Bah, ça, quand même, c'est facile. On peut partir avec. » Vous savez, pour un pianiste, c'est quand même une frustration de ne pas avoir son instrument tout à côté. Et voilà, et du coup, j'ai pris ce bandoneon, j'ai commencé à jouer avec, un peu autodidacte. Et au fur et à mesure, heureusement, j'ai commencé à prendre des cours aussi.
Oui, bien sûr.
Et voilà, c'est devenu un peu mon compagnon de musique.
Et ces cours et ces compléments de formation, on a pu lire quand même que vous les avez pris avec quelques noms qui sont particulièrement importants dans l'histoire de l'instrument. J'ai vu passer le nom de Rodolfo Mederos, de Juan José Mozzalini. On est dans les plus grands noms du bandoneon contemporain. Comment ça s'est passé? Pourquoi ces rencontres
Oui, ben, je voudrais surtout dire qu'au début, j'ai commencé avec quelqu'un qui m'a accompagné pendant quelques années avec ses instruments, qui s'appelle Federico Pereira, qui est un bandoneoniste de l'orchestre de la ville de Buenos Aires. Et c'est lui qui m'a remis un peu dans les rails de comment jouer l'instrument, parce que vous voyez, quand on vient du piano ou d'autres instruments, on a un peu la présomption de croire qu'on peut jouer n'importe quel instrument. C'était faux, mais je l'ai joué mal. C'est pas que maintenant, je joue beaucoup mieux, mais quand même, lui, il m'a aidé pour faire un parcours. Et au fur et à mesure, du coup, je commençais à connaître aussi d'autres bandoneonistes. Je suis rentré un peu dans le réseau de Buenos Aires, qui est quelque chose d'étonnant. Ça m'a beaucoup formé. Et j'ai eu la chance aussi, du coup, de travailler et d'étudier avec Rodolfo Mederos. Et après, quand j'ai déménagé en France, parce que j'ai vécu 10 ans en Argentine, quand j'ai déménagé en France, j'ai connu Juan José Mozzalini, et bien sûr.
Alors, Juan José Mozzalini, on l'a souvent cité déjà dans l'émission,
oui.
Nos auditeurs s'en rappelleront. On lui doit la création de la classe de bandoneon au Conservatoire de Gennevilliers. Le nom de Rodolfo Mederos est peut-être moins connu des auditeurs. C'est un immense artiste qui est arrivé à un moment où peut-être le tango était moins en vogue et l'instrument était moins en vogue, moins populaire. Donc il a moins été connu. Moi, j'ai des souvenirs magnifiques des concerts qu'il a pu donner avec Daniel Barenboim au piano. Le grand chef d'orchestre et pianiste. Et ils avaient fait des albums de tango absolument prodigieux qui sont toujours à écouter, à danser.
Mais en plus, vous savez bien sûr que Rodolfo Mederos et Juan José Mozzalini, ils ont partagé pendant 3 ans, ils jouaient ensemble dans l'orchestre d'Osvaldo Pugliese.
Tout à fait.
Ils avaient presque la même façon de jouer l'instrument, avec leurs différences, mais du coup, je me suis retrouvé avec eux, qui disaient, ouais, C'est quand même un style.
Oui.
Superbe. Alors cet instrument, il faut en venir à lui quand même. Hein. Le bandoneon, c'est vraiment l'emblème du tango argentin. On n'a pas eu encore l'occasion d'en parler beaucoup dans cette émission. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion d'essayer de le décrire. Par rapport au piano, c'est un instrument polyphonique déjà. C'est-à-dire qu'en appuyant sur plusieurs touches, on va pouvoir combiner les sons, faire des accords de sons. Donc c'est peut-être la première chose à remarquer. Il est modulable dans sa puissance également. La façon de moduler le souffle de l'instrument va permettre de moduler le volume de l'instrument lui-même. Donc il a déjà des caractéristiques d'expressivité importantes. Je pense que c'est peut-être ça qui vous a mis tout de suite en rapport, parce que finalement, le piano, les touches du piano, la possibilité de moduler, c'était déjà des choses que vous rencontriez dans votre expression de pianiste.
C'était ce que je croyais. Et finalement, c'est un instrument qui, à part juste un peu l'effet que mes doigts pouvaient bouger sur quelque chose qui ressemblait à un clavier, et finalement, c'est un instrument qui est très, très lointain du piano. C'est-à-dire, les claviers n'est pas du tout les mêmes. Même les claviers est hasardeux. Sa disposition du clavier est totalement... Il n'y a pas une logique. Il n'y a même pas une logique entre la main droite et la main gauche. Et en plus, quand on joue en ouverture, ce n'est pas les mêmes notes qu'en fermeture. Il faut apprendre quatre claviers. C'est l'instrument du diable. Voilà. Mais...
Alors ça, c'est un point important. Il faut peut-être le souligner. C'est ce que vous venez de faire remarquer. C'est un instrument diatonique. C'est-à-dire qu'en poussant ou en ouvrant les soufflets de l'instrument, le fait d'appuyer sur une touche va produire un son différent. Donc pour l'instrumentiste, effectivement, pour l'interprète que vous êtes, c'est absolument hallucinant d'imaginer qu'il faut mémoriser des claviers différents, finalement, de notes en fonction du fait qu'on tire ou qu'on pousse l'instrument. C'est ça que je comprends.
C'est ça. Mais finalement, au bout d'un certain temps, on apprend à les connaître. Et du coup, voilà, on s'habitue. C'est comme quand on fait des nouvelles connaissances avec quelqu'un qui est un peu bizarre. Mais après, on apprend à les connaître et on s'émarre bien avec. Voilà.
Oui, on a pu vous écouter, on confirme. Bon, alors le temps passe.
Alors c'est un instrument magnifique. Ce que je vous propose, en fait, c'est d'écouter un petit extrait d'une expérimentation sonore que vous avez enregistrée il y a quelques temps. Vous pourrez peut-être nous dire en quelle occasion. Mais ça me semblait extrêmement intéressant de la passer parce que ça parle de la nature même de cet instrument qui est aussi une respiration, un souffle. Et donc, c'est une expérimentation sonore sur le souffle du bandoneon par Simone Tolomeo. Je vous propose un tout petit extrait. Stupéfiant. Hein.
Incroyable.
Alors Simone, ce qu'on vient d'écouter, c'est le souffle du bandoneon sans lequel l'instrument ne peut pas chanter. Alors, c'est vraiment une expérimentation. Le but n'est pas forcément de produire de la musique, mais vraiment d'aller chercher un peu ce souffle. On l'entend respirer, on l'entend un peu chuinter. Il a une vie propre presque.
Oui, d'ailleurs, ça, c'était une idée des deux amies danseuses, Marie et Sigrid, qui voulaient faire une expérimentation des danses entre les tangos et les contemporains. Et on m'avait demandé justement d'enregistrer quelque chose.
C'est quelle année? Vous avez fait ça en quelle année? Parce qu'on n'a pas...
2023-24.
2023-24. Ouais. Oui, on a l'impression qu'il est complètement vivant, cet instrument, ce bandoneon.
Oui, c'est vraiment entendre la respiration. En fait, l'essouffler, c'est un peu comme notre diaphragme.
Oui.
Et du coup, il faut vraiment bien apprendre à les gérer. Moi, quand je me parle avec mes élèves de bandoneon, je leur dis toujours que un bon chanteur doit toujours avoir bien en place son diaphragme et bien le contrôler. Et oui. Beaucoup de fois, on pense avec les bandoneons que c'est lui doit se mettre beaucoup de notes, beaucoup de touches, alors que finalement, les soufflets ont quand même son importance.
Bien sûr.
Alors j'ai appris à chanter à l'Opéra de Paris et ma chef de chant à l'époque, alors je vais donner son nom, hein, Françoise Macchiocchi, était en admiration devant Astor Piazzolla, qu'elle regardait toujours attentivement en disant qu'il était une véritable leçon de chant pour les chanteurs parce que son bandoneon respirait littéralement. Et en écoutant cette expérimentation sonore, je repensais justement à Piazzolla, à son jeu caractéristique et à sa façon de refermer le soufflet et même de jouer en produisant du son avec ce claquement du soufflet. Est-ce que c'était aussi quelque chose qui était derrière cette expérimentation ?
Je pense que derrière cette expérimentation, il y avait la recherche de plusieurs sons qu'on pouvait faire avec l'instrument. Et je ne sais pas si c'était directement influencé par Piazzolla, mais je pense que tout bandoneoniste est influencé par lui. C'est-à-dire, au bout d'un moment, dès qu'on commence à jouer cet instrument, on commence à s'inspirer d'autres bandoneonistes.
Bien sûr, oui.
Et moi, je pense notamment quand j'écoutais Troilo, Sidney Cortis, Leopoldo Federico, mais moi, c'était de... Mais bien sûr, tout le monde passe par Piazzolla, qui a... Et c'était un peu la révolution dans le monde du tango et dans le monde du bandoneon. Une nouvelle façon d'aller jouer, amener du son ailleurs. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance de le voir en live, mais on m'a dit qu'il était vraiment impactant.
Oui.
Impactant dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être sur scène.
Oui, il y avait une présence. Il se mettait debout pour jouer déjà, ce qui change aussi considérablement la façon de jouer, de déplier le bandoneon ou de le refermer. Ça aussi, c'est très compliqué. Bah, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'écouter un concert hommage à Piazzolla que vous avez donné en 2021 à Lyon avec l'ensemble Chimichango. Alors peut-être quelques mots de cet ensemble dans lequel vous êtes intervenu.
Oui, c'est un quintet où on joue principalement la musique d'un chanteur qui s'appelle Aureliano Marin, qui habite en Suisse. Et ces jours-là, on avait fait un concert avec l'Orchestre des Chambres de Lyon. On nous avait demandé de faire justement des arrangements, des morceaux de Piazzolla avec eux. Et c'était vraiment très sympa. Mais on a aussi joué quelques compositions à moi. Je ne sais pas quel extrait d'ailleurs on va écouter.
Evelyn Calaf, Chimichango.
Voilà, ça, c'est, je crois que c'est un de mes morceaux. Du coup.
Et donc, j'ai choisi. Alors, on ne pourra pas écouter le morceau en entier, mais je vous propose ce morceau, ce passage, finalement, qui est vraiment très original et très riche et qui évoque effectivement la mémoire de Piazzolla. On l'écoute.
Thank you.
Dapi, merci à la technique. Effectivement, comme je l'avais dit, on ne peut pas écouter tout le morceau. On est vraiment à la frontière du tango, des musiques contemporaines avec des dissonances très particulières déjà. C'est une composition que vous avez donc écrite.
Oui, elle s'appelle Hevrin Kalaf. C'est un hommage à une pacifiste kurde qui malheureusement avait été assassinée en 2020, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était l'époque où justement j'ai écrit ces morceaux. Mmh. Et voilà, c'est bien ce que tu as dit. C'est quoi la frontière entre la musique, le tango, la musique d'aujourd'hui, le tango ? Je ne sais pas. Voilà, c'est quelque chose que je me...
Ce qui est certain à écouter votre œuvre, c'est que, en tout cas, il y a une exploration de ces territoires. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de frontières, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de délimitations. Il y a des voyages qui s'établissent, comme il y en a eu tant d'autres, à d'autres époques d'ailleurs, de cette musique. Donc on essaye, dans cette émission, de les parcourir, et c'est le plaisir qu'on a de vous rencontrer. Il y a aussi beaucoup d'autres voyages que vous avez faits avec de nombreuses formations. Hein. On en a cité juste quelques-unes, Los Milonguitas, on vient de parler de Chimichangu, mais il y avait aussi le Murger Quartet, Otros Aires, Silbando. Donc combien finalement de formations d'orchestre et combien de musique de bal, de danse. Il y a aussi cet ancrage profond dans la danse, dans votre travail.
Oui, et en fait, les rencontres avec les tangos, ça a été assez particulier pour moi en Argentine parce que j'avais découvert une façon de faire de la musique avec de la proximité avec les gens. Que ce ne soit pas juste les publics qui viennent t'écouter, mais sinon, c'est partage.
Oui.
Et si vous voyez, en fait, les tangos, même les folklores argentins, sont très ancrés dans ces partages.
Oui, tout à fait.
Et ça m'a toujours touché. L'effet de pouvoir du coup créer de la musique, être ensemble avec mes compagnons de scène, mais partager justement avec les danseurs. Et c'était un apprentissage incroyable. Après, le monde de la musique argentine populaire, c'est tellement vaste et j'ai eu tellement la chance de participer par exemple à l'orchestre de Ramiro Gacho, qui a été une formation pour moi, juste l'effet de faire partie de cet orchestre. Et après, de partager avec d'autres gens un peu partout ici en Europe, avec Los Milonguitas, par exemple, avec Pablo Murger et Sébastien Noja, on a fait énormément de concerts. On a fait, je ne sais pas, presque 1000 concerts un peu partout en Europe. Et voilà, ça nous a permis en fait de découvrir une autre façon aussi d'amener la musique, liée aussi à l'improvisation. Qu'on développe aussi, moi j'essaie de développer ça aussi dans d'autres ensembles, par exemple les Murger Quartet, mais aussi dans, et je pense notamment à Chimichangu, il y a beaucoup d'improvisation, La Petite Roulotte, qui est un nouveau projet dans les groupes justement du collectif Roulotte, et voilà, et aussi avec Sicarditrio, je sais pas, en fait,
oui,
la musique c'est tellement...
Il y en a tellement.
Ouais. Vous paraissez vraiment à l'intersection du savant et du populaire, en fait, hein, dans votre travail de musicien, d'une musique que vous écrivez, hautement savante aussi, très originale, très inventive, et on vous connaît aussi comme un bandoneoniste dans des bals avec des formations qui ont plaisir à faire danser. C'est un peu comme ça qu'on peut retenir votre style, Simone Tolomeo, non ?
Alors, on parle de proximité. Vous êtes venu avec votre instrument. Voilà, on est très touché de ça. C'est un peu une première ici et on a très envie, on remercie la technique de se prêter au jeu. Voilà, Simone Tolomeo donc, a pris son instrument. Il est posé devant lui. Il est dans le tout petit studio d'Aligre FM. Et donc, ce qu'on se propose maintenant, eh bien, c'est de proposer aux auditrices et aux auditeurs une session d'improvisation live, peut-être autour d'un thème. On vous laisse, on vous écoute. Thank you.
J'ai envie d'applaudir.
On a envie d'applaudir, évidemment, dans le studio. C'est
super,
une émotion.
Merci
c'est
beaucoup.
Super, merci Simone Tolomeo.
Mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est vous qui respirez ou c'est votre bande de néon? Mais c'est votre bande de néon qui respire. On entend comme ce souffle-là, comme la respiration d'une personne, c'est incroyable.
Oui. Mais moi aussi, j'ai une respiration assez profonde.
C'est
on a
sublime.
Une petite symbiose.
C'est sublime, parce que quand on écoute de la musique qui est souvent remasterisée, faite en studio, etc., on fait disparaître tous ces petits sons, tous ces moments de vie qui sont propres à cet instrument et à l'artiste qui joue. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir donné ce magnifique morceau à entendre.
Superbe. Quel thème donc était à la...
Mais ça, c'était Volver.
Volver,
Carlos
bien sûr.
Carlos Gardel.
Ouais,
voilà, rappelons ça. Et c'était vraiment superbe. Et j'espère que la captation dans le studio aura permis d'entendre toute cette subtilité, cette énergie, et puis la tension. Alors, c'est un autre aspect, d'ailleurs, de votre musique, je trouve. On parlait de musique savante, de musique populaire. Je trouve qu'il y a aussi un équilibre, toujours, entre l'énergie, la nostalgie et l'humour et la gaieté, finalement. Mm-hmm. On a tendance à entendre des instrumentistes et des interprètes du tango qui sont parfois toujours dans un registre un peu triste, un peu dramatique. Et c'est pas forcément ce qu'on ressent dans vos interprétations, où on sent toujours un côté un petit peu... Voilà, autant il peut y avoir une grande tension, mais il y a aussi cette sorte de joie, d'ironie parfois aussi.
Ben, je pense que quand je joue, j'ai envie de passer un bon moment. Voilà, et je cohabite en fait une ambivalence, un dualisme entre, disons, ma partie de compositeur, d'introspection et des recherches,
oui,
avec la partie d'interprète. D'ailleurs, en général, si ce n'est pas de la musique populaire, je ne joue pas ma musique. D'aller écouter la musique populaire, j'aime bien parce que je trouve toujours ces côtés un peu gay d'improvisation, des partages avec les autres. C'est ça que j'aime bien.
Oui.
Et voilà, et je trouve que trouver du coup des compagnons de voyage qui partagent un peu ces côtés heureux de faire de la musique, ça me met toujours avec une bonne prédisposition.
Oui, on l'a vu en dansant sur vos musiques dans de multiples balles, notamment parisiens, mais pas seulement.
On pense évidemment à Otros Aires, mais oui. je pense aussi, et ça m'évoque ça, vous avez évoqué le trio Sicardi Trio. Mm-hmm. Il me semble qu'il y a un peu justement ce côté toujours un peu ironique, un petit peu, même sur des morceaux qui peuvent sembler très dramatiques, il y a une forme de détachement et un regard un petit peu joyeux par rapport à ça. Il me semble que vous vous entendez bien au sein de ce trio pour aborder la musique avec un...
Ben oui, mais c'est parce que aussi on a envie d'offrir un moment d'humour. C'est-à-dire, les gens, quand aussi sortent, ils ont, bien sûr, ils ont envie de s'y retrouver, de trouver des gens. Mais aussi, ça fait partie du moment de partage. Quand on va dans un bal de tango, on a envie de sortir et avoir passé un bon moment.
Tout à fait.
Et surtout parce que c'est l'esprit vraiment du bal, de la milonga. Non, c'est d'être là avec d'autres gens et de s'y retrouver et de se connecter avec les autres. Ce qui est différent quand on va, par exemple, dans le cadre d'un concert où on est auditeur, là, on a envie de découvrir quelque chose de nous-mêmes dans l'introspection.
Oui.
Non?
Tout
Alors
à
que
fait.
Dans les balles, dans la milonga, on a envie de découvrir aussi nous-mêmes, parce que finalement, la vie, ce n'est qu'une recherche de nous-mêmes. Est-ce qu'un jour, on va y arriver? Non,
oui.
Bien sûr que non. Mais, spoiler,
oui.
Mais quand même, il y a la recherche dans la connexion avec les autres. Et du coup, je pense qu'il faut offrir ça. Voilà.
Oui, c'est Parfait. Ce qui ressort quand on vous écoute, c'est l'expressivité que vous donnez dans vos interprétations musicales lors de balles.
Je propose à nos auditrices et auditeurs d'en juger eux-mêmes, elles-mêmes et eux-mêmes, en écoutant Mariano Sicardi avec notre invité Simone Tolomeo. Donc dans ce trio, il y a aussi une contrebasse, j'ai oublié son nom.
Et Facundo Leonidas Di Pietro.
Voilà. Dans un enregistrement de Toda Mi Vida de 2025. Ça a été enregistré dans un très joli petit lieu parisien. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur Internet, on écoute.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me estoy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. No han de verte nunca, nunca. Y si acaso por mi culpa una lágrima vertiste, como tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
Voilà, de retour sur l'antenne d'Aligre FM et de l'émission Au cœur du tango. On rappelle que tout de suite que vous pouvez nous réécouter, chers auditrices et auditeurs, en podcast sur www.aligrefm.fr.
.org.
Ah, il y a une petite erreur. .org, oh là là. Ainsi que les excellentes émissions de tous nos collègues. Vous ferez un plaisir. Alors là, on vient d'écouter Mariano Sicardi, Toda Mi Vida 2025, avec notre invité Simone Tolomeo.
Et comme on le disait, c'est vraiment une interprétation d'acteur. Hein.
Tout à
vous
fait.
Vous l'avez entendu, et comment il joue avec ses paroles.
Tout à fait. Et vous aviez dit, Sylvain Berthaud, vous n'y avez pas dit où. Alors, il y a une petite vidéo qu'on peut regarder sur YouTube et ça se passe au Caminito. Hein. Il suffit de taper Mariano
Sicardi. Un
très joli lieu de Milonga, voilà, charmant, dans lequel vous avez enregistré, n'est-ce pas, hein, Simone?
Tout à fait.
Super joli.
Alors Simone, nous l'avons vu, vous avez une formation musicale extrêmement complète, vous avez une approche de la musique qui est finalement incroyablement variée, et vous êtes également compositeur, nous n'en avons pas encore parlé, compositeur de musique qu'on qualifierait de musique contemporaine.
Oui, on peut dire ça. Moi, je fais toujours la blague que quand on dit les mots musique contemporaine, ça semble qu'on a envie de faire peur aux gens. Alors que la musique contemporaine...
On a déjà très peur.
Ouais, moi, j'aime bien dire musique classique des créations. Parce que, en fait, quand on dit musique classique, ça veut dire que c'est la musique écrite. Et du coup, qu'on peut partager plus facilement avec des musiciens qui ont une formation justement de musique classique. Et des créations parce que c'est fait aujourd'hui. Et si vous voulez, ça a été toujours un peu pas que ma mission, mais la mission un peu des gens avec qui je me suis retrouvé autour en Argentine, de et vouloir toujours créer. Et du coup, même dans la musique populaire, dans les tangos, et je me suis retrouvé toujours dans un milieu où c'était bien de créer. Même s'il y a une grosse tradition, par exemple, dans les tangos, on sait bien que la période d'or, non, les années 40, les années 50, on ne pourrait jamais les reproduire. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, il faut écrire de nouveaux tangos, par exemple. Et parce que, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la tradition, s'il n'y a pas une création aujourd'hui, demain, en fait, tout ça, ça va mourir.
Tout à fait.
Non? Et c'est pareil dans la musique classique, où il y a quand même un grand parcours, non? C'est-à-dire, il y a plein de compositeurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que composer la musique, aujourd'hui, c'est aussi une approche d'un travail personnel qu'on fait. Mais pas que. Pour moi, la composition est très liée à un partage collectif. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est qu'on compose, c'est qu'on écrit, c'est qu'on a envie de partager. Et ce n'est pas juste parce que ça dépend de nous. C'est des choses qui sont dans l'air, qui se créent dans un moment déterminé. C'est une vision de la réalité qu'on peut avoir à ces moments-là parce qu'on se retrouve avec d'autres gens autour qui sont aussi dans la création, et pas que. Et c'est pour ça que je voulais revenir au fait dont on a parlé tout à l'heure, de l'art et la science.
Oui.
Parce que pour moi, en fait, il y a un côté, dans la science, on est toujours dans la recherche de quelque chose qu'on partage avec tout le monde. Donc, vous voyez qu'il y a un
quelque
objet.
Quelque chose d'universel.
Ouais, oui, il y a l'objet qu'on a envie d'atteindre, même si avec nos limites d'être humain, mais on s'approche quand même à la physique quantique, on allait très très loin. Et dans l'art, si vous voulez, c'est il y a toujours l'objet qu'on ne va jamais attendre, spoiler à nouveau, mais on peut offrir plusieurs perspectives. Et ces perspectives, bien qu'elles soient uniques, c'est-à-dire il y a une perspective qui m'appartient, une perspective qui t'appartient, mais elles sont toujours influencées par les autres. Si vous voulez, c'est un peu on n'est pas forcément dans les mondes des droits d'auteur, du copyright, alors que finalement, on partage pas mal des choses avec tout le monde. On est tous un peu influencés.
Tout à fait, il y a une histoire.
Voilà. Et tout ça pour revenir au fait que j'avais besoin de trouver une expression dans la musique qui ne soit pas que liée aux musiques populaires. J'avais envie de sortir un peu et de proposer quelque chose qui soit juste de la musique. Et qu'on ne me dise pas, ah oui, ça, est-ce que c'est un tango, est-ce que ça, c'est pas un tango, est-ce que ça, c'est du folklore. Non, c'est de la musique. Et du coup, finalement, le monde qui m'a accueilli mieux, c'est-à-dire où j'avais la plus de liberté, c'est ce qu'on appelle la musique contemporaine.
Oui.
Voilà.
D'accord. Alors, pour illustrer ce rapport à la musique contemporaine, j'ai choisi une œuvre que vous avez composée, qui s'appelle Ressac, donc c'est l'opus 11. C'est une œuvre pour un quatuor à cordes et qui est enregistrée, donc c'est la création mondiale, qui est enregistrée avec un ensemble que vous dirigez, l'ensemble
Contempo. D'ailleurs, je voudrais dire juste un mot avant qu'on l'écoute, ces morceaux-là ont été enregistrés lors d'un festival de tango à Firmini, le festival Roulotte, qu'il y a tous les ans, cette année il va y avoir l'édition, ça va être la deuxième ou troisième semaine et du mois de mai. C'est un festival autogéré par des musiciens où il n'y a que de la musique live. Voilà, c'est à Firmini, pas loin de Saint-Étienne. Et on m'a donné la chance cette année, l'année dernière, justement, de présenter avec mon ensemble Contempo, de faire cette création et que ce soit les premiers concerts. Du coup, c'était fantastique parce qu'il y avait plein de danseurs qui étaient venus danser. Ils ont vu un quatuor à cordes. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont assis, ils ont écouté un concert et je n'ai jamais vu un public si enthousiaste pour de la musique contemporaine. Et après, ils sont partis danser, mais ils étaient dans un état. Et moi aussi, hein, j'ai trouvé fantastique de mélanger les mondes.
Il y avait une écoute réciproque. Et c'est, c'est peut-être le rapport qu'on évoquait tout à l'heure entre musique et danse. On retrouve peut-être ce rapport d'écoute. On écoute Ressac. Thank you. On écoutait Ressac sur Au cœur du tango sur Aligre FM. On a été obligé de faire un tapis, l'œuvre est assez longue.
Et on rappelle que nous sommes avec Simone Tolomeo et dont on vient d'écouter le Ressac opus 11.
Alors Simone Tolomeo, on en vient presque à la fin de l'émission. Déjà, le temps passe toujours trop vite dans Au cœur du tango. On essaye d'écouter beaucoup de musique. On a parlé un peu de vos participations dans des formations de tango. Il y en a tellement qu'on aurait pu faire quelques émissions supplémentaires. Alors, quelles sont aujourd'hui vos actualités, vos projets? Qu'est-ce qui est en route?
Alors, par rapport à la composition, j'ai quelques beaux projets qui arrivent. Je vais faire une résidence avec l'Orchestre National de Bretagne. Mmh. Où on m'a commandé une pièce symphonique. Du coup, j'ai la chance de passer un mois avec eux et d'avoir un an pour composer une pièce dédiée justement à la relation entre l'océan, parce que ça va être une relation avec les milieux marins et la station biologique de Roscoff. Du coup, je vais être à Roscoff pendant un mois avec des biologues. Ça va être sympa moment aussi pour moi, formateur. Et après, je suis en train aussi d'écrire une pièce de la musique, puis une pièce de théâtre sur l'histoire épistolaire qu'il y avait entre Louise Michel et Victor Hugo.
Oh.
Voilà, ça c'est un peu mes actualités au niveau de la composition. Et sinon, en tant qu'interprète, en tant que bandoneoniste, je plein de projets qui arrivent. J'ai bientôt des concerts avec Chimichango ou les spectacles Tango Secret des théâtres qui vient. Et sinon, avec la petite roulotte, on va faire plusieurs dates cette année. Même avec Sicardi Tango, on a notre agenda qui est bien rempli, heureusement.
Heureusement, oui.
Quel succès, voilà. Magnifique.
Parce que désormais, vous êtes musicien, artiste à plein temps. Vous aviez eu une carrière au début, enfin en tout cas des études plutôt d'ingénierie, etc. Mais maintenant, vous êtes un artiste à part entière, non?
Ben, je travaillais 6 mois en tant qu'ingénieur. Et finalement, j'ai découvert que je n'avais pas le temps pour faire de la musique. Et alors, quand même, quand on fait de la musique, on travaille beaucoup. Hein.
Oui,
c'est-à-dire, on travaille dès qu'on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche les soirs, on fait de la musique.
Bien sûr.
Et voilà, c'est que du coup, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Non.
Alors, pour nous quitter, on se quitte toujours en musique. Et donc, pour nous quitter, j'ai choisi un morceau de Los Milonguitas, Rosa y Negro, mm-hmm. Un enregistrement de 2018. C'est également une composition que vous avez interprétée?
Oui, c'est aussi une composition que j'avais écrite parce qu'avec Los Milonguitas, on allait jouer dans ma ville natale, Palerme. Et vous savez bien que, je ne sais pas si vous savez, mais les maillots de l'équipe de foot de Palerme, rose et noir. Et du coup, j'appelais ces morceaux Rosa y Negro pour le dédier à ma ville natale.
Super.
J'allais au stade avec mon père, les mêmes qui m'accompagnaient au théâtre à écouter du Beethoven, m'accompagnaient au stade aussi. Du coup, c'était un joli hommage pour ma ville. Voilà.
Super. Bon, avant d'écouter ce morceau, alors on va d'abord remercier toutes les auditrices et auditeurs de leur fidélité. Remercier Renaud Poussin qui était à la technique. Et donc, pour nous quitter, alors on vous remercie en tout cas, Simone Tolomeo, d'être venue. Vous reviendrez. J'espère, avec plaisir.
Avec plaisir.
Bon, super. Et donc, on va écouter un morceau de Los Milonguitas, une formation qui a ouvert cette émission. Rosa y Negro, date de 2018.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.